midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Je reçois la romancière, actrice, scénariste, réalisatrice Safia Azdine. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Votre huitième roman s'appelle « Mon père en doute encore » aux éditions Stock. Finalement, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vous dise que vous êtes écrivain, romancière?
Ah, alors vraiment, je n'ai aucune préférence. J'écris des livres, donc romancière. Si je commence à écrire des essais, je serai plus romancière. C'est un petit peu mon envie pour le prochain.
C'est vrai.
Donc ouais. Oui, d'une manière générale, j'écris, mais par contre, je ne suis pas du tout actrice. Mmh. Je l'ai fait une fois en 2010 ou 2009. C'était vraiment que pour l'argent.
Ouais,
c'était que pour l'argent. C'était très bien payé. J'avais eu le rôle et j'avais besoin d'argent à l'époque, mais je me dirais pas actrice. D'abord parce que je pense que j'étais pas très bonne et deuxièmement parce que je l'ai jamais refait. C'est pas quelque chose que j'ai aimé faire.
Par exemple, dans votre livre, on apprend que vous pleurez sur commande. Ça, c'est être actrice, non?
Non, mais pleurer sur commande, il n'y a pas besoin d'être. En tout cas, si une actrice pense que c'est une actrice parce qu'elle sait pleurer sur commande, non, c'est juste que. On sait où aller remuer des choses pour avoir une petite larme et obtenir ce qu'on veut, voilà.
Qu'est-ce que vous répondez quand on vous demande pourquoi vous n'avez pas écrit sur votre mère?
Parce que je donne la réponse à la fin du livre, donc je ne vais peut-être pas vous répondre maintenant.
Est-ce que vous croyez que vos parents, et en quoi est-ce que vos parents sont des bons personnages de roman?
En tout cas, mon père, parce qu'en fait, je dis souvent que l'éducateur qu'il a été a laissé place, maintenant que c'est un grand-père, à laisser place au personnage et je racontais par hasard une anecdote à mon éditeur. On prenait un café, je lui racontais ce que mon père m'avait dit la veille et c'est le début de mon livre d'ailleurs, quand je lui disais comment vas-tu papa, et il a toujours des réponses comme ça, jamais très courtes parce qu'il a envie que le coup de téléphone dure plus longtemps, donc il a sa manière à lui de me dire qu'il va bien, mais qu'il irait mieux si j'étais à côté de lui, etc. Et donc, ça a touché mon éditeur et il m'a encouragé à écrire sur lui. Parce qu'en effet, c'est un personnage et puis c'est pas un père arabe comme on nous les a montrés beaucoup dans les médias, les méchants bourreaux qui terrorisent leurs filles, comme on nous en montre trop et trop souvent. C'était un bon père et je pensais qu'il y avait un rééquilibrage à faire, à rendre hommage un peu aux pères qui ont été des éducateurs et qui nous ont sanctionnés parfois, qui nous ont éduqués, un peu en opposition avec les pères copains qui finalement vous donnent pas beaucoup de garde-fous, pas beaucoup de limites et pourtant ça fait rêver quand on est plus jeune, un père copain, contrairement à un père qui vous interdit beaucoup de choses et qui vous éduque finalement. Donc il y a un petit rééquilibrage, un hommage à tous ces pères dont on s'est un peu moqué et qui finalement ont fait du bon travail.
En quoi votre père est-il au centre aujourd'hui de la femme que vous êtes devenue et est-ce qu'il influence les choix que vous faites aujourd'hui?
Oui, il influence probablement les choix que je fais et puis en plus j'ai complètement fait la paix avec ça, alors je m'en fous complètement, c'est comme ça, c'est mon père.
Mais est-ce que vous l'avez toujours pensé ou vous êtes...
Non mais j'analyse pas, c'est juste que c'est vrai que quand j'ai une décision à prendre, j'ai pas d'agent, j'ai pas tout ça moi, donc par choix aussi, je lui demande son avis. Et j'aime le fait qu'il soit totalement...
Vous demandez son avis à votre père?
Oui, ouais. sur tout. Et sur des... En plus, il comprend rien un petit peu au monde dans lequel j'évolue, à savoir... le monde littéraire, j'évolue pas dedans. Hein. J'écris des livres, je les donne à mon éditeur, on les corrige. Enfin, je suis pas spécialement mondaine. Donc... Mais c'est vrai que quand j'ai une question à lui poser, j'aime ses réponses qui caressent pas toujours les oreilles. Et puis, assez simples, finalement... et donc c'est un peu mon agent, mon publiciste, si on peut appeler ça comme ça. C'est la personne qui me veut du bien, donc je lui fais confiance. Et puis j'aime qu'il y connaisse rien, j'aime que ce soit pas un professionnel de l'édition ou du monde du spectacle ou du cinéma. Il y connaît rien, il y comprend rien, il a des petits a priori dessus et je trouve ça très drôle. Et puis après je gère toute seule, mais ouais, son avis compte parce que c'est une personne très importante dans ma vie et il est au centre de ma vie. D'abord parce que il m'a éduquée. Je dis il, mais c'était un travail d'équipe. C'était avec ma mère, mais lui.
Qui est présente dans le livre.
Bien sûr.
Hein, bien sûr. Elle est pas absente.
Mon père était un féministe, mais pour moi le féminisme et pour lui aussi n'a qu'une bonnes raisons d'exister, c'est le féminisme économique. Mon père m'a répété sans cesse, depuis que je suis née, à ma sœur et à moi, aussi à mes frères, mais surtout à ma sœur et moi, d'être indépendante financièrement. C'est-à-dire que pour lui, il nous répétait qu'il aurait raté sa vie si on dépendait d'un homme, si on devait demander de l'argent à un homme. Parce que probablement, il a grandi dans un Maroc. Son père est mort quand il avait 2 ans, donc lui, il a été récupéré par plein
des
de
femmes.
Bras de bonnes ouais. femmes. Et il a adoré ça, hein, ça n'empêche, mais il a vu ce que c'était de passer en deuxième, de dépendre financièrement de quelqu'un, et c'est quelque chose qu'il a, à mon avis, traumatisé, et il voulait pas ça pour ses enfants, et encore plus pour ses filles. Donc, l'indépendance financière est au cœur de son féminisme et du mien. Voilà.
Ouais. Les romanciers écrivent souvent un premier roman autobiographique. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si tard? Finalement, pour être...
Ben ça, je peux pas, je sais pas. C'est pas venu comme ça. Peut-être que j'avais pas grand chose à dire.
Mais par exemple, vous expliquez très bien dans votre livre que votre père, c'est un homme de moment. Donc pour lui, le moment de faire les choses est très important.
Oui,
est-ce que ça veut dire que c'était pour vous le bon moment d'écrire sur lui?
Mais encore une fois, probablement. C'est-à-dire que j'analyse pas, moi, tout ça. Vous savez, ça vient, j'accueille tout ce qui arrive. Faut croire que c'était le moment d'écrire sur mon père là, en tout cas mon moment à moi.
Votre père et votre
famille. Qui a coïncidé avec la vie aussi de mon éditeur, qui est important. Et puis, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à écrire Confidence à Allah, j'avais envie de parler d'une jeune fille que j'avais vue dans un bar à Marrakech, et c'est elle qui était importante à cette époque-là. C'était une jeune fille comme ça. Je me suis imaginé sa vie en la voyant un petit peu évoluer dans ce bar, un peu mal à l'aise. On sentait que c'était un peu sa première soirée de pute, quoi. Et je me suis inventé une histoire autour de ce personnage, voilà. Mais je réfléchis pas à tout ça. J'écris comme ça vient, quoi.
J'ai appris en lisant votre livre que vous devez votre carrière à un prof de votre père qui zozotait, finalement.
Non.
Ça tient un peu de choses.
Non, je ne dois pas du tout ma carrière. Non, je dois ma carrière à mes parents, probablement, parce qu'ils ont bien fait leur travail et qu'ils m'ont donné les moyens de m'envisager et de m'envisager dans la vie de manière plutôt sereine et puis de voir grand. Voilà, de voir grand. Donc ça, certainement, je leur dois une fière chandelle pour ça. Non, c'est juste qu'en fait, mon père prenait... la religion, enfin c'était plutôt gay, quoi. C'est-à-dire que il nous a transmis la religion plus qu'il nous l'a imposée. C'est-à-dire que dans la religion il y a la culture, surtout les traditions, et c'est ça qu'il a voulu préserver et nous inculquer. Donc j'ai un rapport à la religion très très gay, très jovial. Il y a pas de contrainte. De toute façon, il y a pas de contrainte en islam. Vous réglez vos comptes si vous êtes croyant, évidemment, avec Dieu. Personne sur terre doit vous dire quelque chose. Donc moi, c'est ce que j'aime, mais c'est plus mes traditions que j'aime bien, voilà. Et c'est ce qu'il a transmis le plus. Et donc voilà, son professeur d'études coraniques au Maroc, quand il était petit, zozotait, et donc il passait leurs cours à se foutre de sa gueule, voilà. Et donc forcément il a envisagé la religion de manière plus légère, et puis il nous l'a transmis de cette même manière. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas notre culture, nos traditions. On en est content, ouais.
Quand vous étiez ado, votre père vous disait: tu n'as pas besoin de te marier, toi, tu es un homme et la femme à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça, demandez-lui. Ça, c'est... Il a le secret de ces formules toutes faites.
Comment est-ce que vous l'avez entendu, vous, ça?
Non, je l'ai entendu. Je pense que c'est un papa fou de ses enfants. Donc, je pense que c'était une manière de dire à ses filles, restez le plus longtemps avec votre père. Et puis, c'était une manière aussi de nous exprimer tout son amour et de nous dire que... on était trop bien pour n'importe quel homme sur terre, voilà.
Est-ce qu'il le disait à vos sœurs aussi?
Ah bah oui, à ma sœur, oui. Ouais. Ah non, c'est à ma sœur et à moi.
C'était collectif, c'était pas
que
vous.
Oui, non, mais j'aimais bien, c'était « te marie pas, ça sert à rien ». Il était très très moderne et très ouvert à ce niveau-là, c'est-à-dire que, évidemment qu'il est content. Aujourd'hui, j'ai un chéri, j'ai 2 enfants, il adore, il aime que j'ai reproduit une famille et qu'on soit très heureux, vous voyez. Mais il voulait pas que le mariage avec un homme soit au centre de ma vie. Mmh. Voilà. Donc il me disait, tu es l'homme et la femme à la fois, t'as pas besoin d'un homme. Donc c'était aussi une manière de me renforcer. Et, mais je crois qu'il aurait été très malheureux s'il avait pas eu de petits enfants. Et puis il adore mon chéri. Et donc voilà. Mais d'ailleurs, on sait pas. Enfin, il y a pas de grand mariage. On n'est pas très grande célébration dans la famille. Donc c'est juste. Faut pas que ce soit la chose principale de ta vie, quoi. Soit épanoui d'une autre manière.
Mmh. D'ailleurs, quand ils se sont mariés, vos parents, il a refusé d'imposer cette forme d'intimité et d'avoir de se plier à la tradition de la grande cérémonie, du grand mariage, du aîné et de tout ça.
Non, mais tout ça, c'est du folklore. Il s'en passe. Il aime pas les célébrations. Il m'a transmis la même chose. Je célèbre pas grand chose. En fait, c'est bizarre. J'ai souvent envie je me dis, tiens, par exemple, si je commence un projet et que je travaille dur dessus, je me dis, oh là là, c'est tellement fatigant. À la fin, j'ai envie de faire une fête pour célébrer ça. Et en fait, je me rends compte que la célébration, c'est l'accomplissement de la chose. Et qu'une fois que c'est terminé, je l'ai déjà célébré en le faisant. Donc, cette fête programmée pour fêter quelque chose. Et puis après, au-delà de tout ça, je pense que l'amour pour un homme ou pour une femme est tellement intime que j'ai pas envie de le partager, moi. Et puis j'ai pas envie de promettre des choses que je pourrais peut-être pas tenir. Voilà.
Ouais, votre père dit pour vivre heureux, vivons cachés. C'est quelque chose que lui aussi vous a transmis et vous partagez dans votre livre un texte.
Oui, sur oui.
Bah, c'est sur un animal qu'on voit peu mais qu'on entend. Le grillon.
Oui, non, mais c'est toujours pareil. C'est pas lui qui l'a inventé de dire pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est vrai que.
Mais vous avez, à un moment donné, vous avez voulu comprendre qu'est-ce que ça voulait pouvoir dire.
Ouais. Eh ben, ça veut dire que. Déjà, c'est très juste. Je suis assez d'accord pour vivre heureux. Pas vivons cachés, je ne me cache pas. Je vois pas juste l'intérêt d'exposer ma vie ou mon amour pour un tel ou ma vie. Voilà, je ne comprends pas ça. Parce que c'est trop précieux, j'ai envie de le garder pour moi. Et puis après, lui, avec son vécu, venant d'où il vient, il a grandi, il est né dans un pays où il y avait quand même la colonisation, où on rase pas les murs, mais enfin pas loin, quoi. On n'est pas forcément les bienvenus dans son propre pays. C'était peut-être aussi une manière pour lui de se protéger, de ne pas, de ne pas montrer quand il était très heureux ou parce que ça ne se faisait pas, quoi. C'est quelque chose qui vous poursuit quand même. Donc moi, je le prends de manière très légère parce que moi, je me suis toujours envisagée dans le monde et à ma place et légitime. Et donc, je vois pas l'intérêt de m'exposer. Je trouve ça assez pas vulgaire.
Pourtant, vous faites un métier public.
À
une époque, vous avez été exposée sans qu'on vous demande votre avis.
Quand ?
Il y a une dizaine d'années.
Ben déjà, je me suis moi jamais exposée. Donc après,
non, j'ai dit vous avez été exposée sans qu'on vous demande votre avis.
Oui, d'accord. Moi, je vous parle de quand c'est mon choix. Je vous dis que je ne vois pas l'intérêt de moi m'exposer. J'ai rien de spécial à raconter. Après, en effet, je fais un métier public et je suis ravie qu'on m'invite à la radio, à la télévision, parce que vous savez quoi, je suis là quand même pour vendre des livres. Donc oui, il y a ce travail à faire. C'est le service après-vente et je le fais volontiers et je trouve ça très bien. Je joue le jeu. Je m'expose, mais je m'expose pour un livre, pour quelque chose que j'ai fait. Je m'expose pas parce que je suis invitée à gauche, à droite. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Je m'expose parce que ça fait partie de mon métier de vendre mes
livres.
C'est-à-dire
que les gens qui racontent leur vie, qui le font, c'est des gens qui le choisissent.
Bah, il me semble quand même, ouais.
C'est un choix. C'est un choix de dire, je fais partie de...
Mais c'est peut-être des gens qui pensent que c'est important, d'autres qui pensent que ça va avec leur carrière. Après, vous savez, on envisage sa carrière chacun de manière différente. Moi, je m'expose uniquement pour ma promo. Puis après, je rentre dans ma tanière et je vois... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est comme ça, parce que j'ai une vie peinarde. J'aime bien ma vie peinarde et j'ai pas envie de m'exposer... Voilà.
Et vous êtes notre invitée, Safia Azdine. Son nouveau roman s'appelle Mon père en doute encore aux éditions Stock.
Le Book Club revient dans un instant sur Beurre FM.
Et le Book Club qui a lu pour vous Mon père en doute encore, c'est le nouveau roman de Safia Azdine qui est notre invitée jusqu'à 13h. On va écouter un peu de musique. Barbara Streisand, ça fait partie de la bande originale de votre vie.
Ouais. De nos voyages Ferney-Voltaire-Figuig en voiture. Et on passait de Cher Harimiti à Ayam et à Barbara Streisand.
Ouais, on écoutera Cher Harimiti tout à l'heure, mais The Way We Were, c'est culte ça maintenant. Robert Redford et Barbara Streisand dans le même film.
Exact.
Of painted pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were.
Ça, ça fait partie des battles dans la voiture pour aller à Figi, hein, Safia Abdi.
Exactement. Enfin, vous savez, sur 3 jours, on avait le temps de satisfaire tout le monde quand même. Donc, il y avait en effet Barbara Streisand, qui était la chanteuse préférée de ma mère. Il y avait Sheikhar Limiti, qui était la chanteuse préférée de mon père. Et il y avait Ayam, qui était notre groupe préféré à mes deux frères et ma sœur. Mais voilà, donc ça a bercé mon enfance, ouais.
Racontez que pendant 10 ans, tous les étés, vous partiez...
Oui, ben, comme beaucoup. Moi, je suis née au Maroc. J'y ai vécu jusqu'à 8 ans.
À Agadir.
Oui, à Agadir. Et donc, c'était un vrai déchirement de quitter le Maroc et de venir ici, même si j'étais... Ma mère est française et marocaine, mon père est marocain. Donc, j'avais un lien avec la France aussi très fort, vu qu'on... Déjà, j'étais à l'école française. Ma langue maternelle est le français. On allait en Normandie voir mes grands-parents aussi. Donc... Mais bon, mon pays, c'est celui où je suis née, quoi. Donc, c'était un petit peu dur.
Vous en avez voulu, vous racontez dans le livre, que vous en vouliez, pourtant vous étiez jeune, à vos parents de ne pas vous avoir consulté et de ne pas vous avoir demandé votre
avis. Oui, alors...
S'est romancé ou...
Non, c'est un petit peu vrai, dans le sens où mes parents, dans la famille, c'est les enfants qui s'adaptent aux parents, c'est pas le contraire.
Voilà.
Ils sont pas obligés. Voilà, ouais. On suit et on se tait. Ça veut pas dire qu'il y avait pas un déchirement. On était triste de quitter le pays qu'on connaissait et qu'on aimait, quoi. Ça veut pas dire qu'en arrivant c'était pas super, mais c'est toujours dur de quitter son pays. On le fait jamais de gaieté de cœur. Et je pense comme mon père en 64 quand il a quitté le Maroc, c'était
pour la première fois. Hein, quand il vient pour la première fois,
ouais.
Il vient à Paris.
C'est jamais de gaieté de cœur. C'est pour des raisons économiques, mais après tout vous manque du Maroc, vous voyez. Et donc moi ça me manquait aussi, ça m'a manqué. Et puis après je me suis fait à ma vie ici qui était aussi très agréable, mais On y retournait pour les vacances, comme on n'était pas vraiment des immigrés économiques, c'était aussi un choix. Mon père
vous le précisez très bien. Hein.
Oui, mais parce que c'est différent. Vous savez quand c'est par choix déjà, vous vivez moins mal la chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être là. J'aurais pu rester dans mon pays, enfin au Maroc. Mes parents aussi, mais mon père avait ce fantasme des grandes études, et donc il voulait qu'on fasse de grandes études. Alors
c'est pour ça que je vous parlais de moment tout à l'heure. Il a dit là c'est le moment. Votre sœur allait rentrer au lycée,
voilà,
et donc il fallait partir.
Il fallait partir parce que voilà, il a ce fantasme de tous ceux qui n'ont pas pu faire de grandes études, et donc. Et donc, on l'a fait, et je vous dis, de manière, c'était un déchirement. Puis après, on a été très heureux aussi ici. Et puis, on connaissait bien la France, hein, c'est pas le problème. Mais quand on est petit, ben, de toute façon, oui, je vous dis, on s'adapte à la vie de nos parents, on suivait. Ça n'empêche pas qu'on leur en a un petit peu voulu, quoi. En plus, on est arrivé, il pleuvait en France, donc... avec nos valises et tout ça, on s'est dit, mais c'est quoi, c'est pas possible.
Où on va?
Ouais, où on va.
Ferney-Voltaire.
Ouais, la ville de Voltaire.
C'était la ville de Voltaire. Hein.
Ouais, 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 avec le château de Voltaire. Non, mais c'était très bien. Moi, j'ai eu une enfance merveilleuse et à Agadir et à Ferney. Mais voilà, on retournait voir la grand-mère et les tantes. Alors là, pour le coup, pas à Agadir, mais à Figuig, dans une petite oasis à la frontière algérienne, dans un Maroc très rural, très traditionnel et très beau. Et c'est vrai qu'autour de moi, mes copines allaient, elles sillonnaient le monde. On était à la frontière genevoise. Il y avait un peu de blé là-bas, vous voyez. Donc ça allait, ça allait à New York, ça allait en Asie, etc. Et puis moi, c'était le retour à Figuig. Et puis sur le moment, j'avais un tout petit peu honte. Et puis il suffisait qu'on commence à faire les valises avec les cadeaux pour les cousins, cousines, les tantes, ma grand-mère surtout, qui affectionnait vachement les chaussons fourrés de la Redoute. Donc à partir de là, j'oubliais totalement les voyages incroyables de mes copines. Et j'étais juste heureuse de vivre ces trois jours dans une voiture, à nous arrêter sur des aires d'autoroute, à manger de bons cakes préparés par maman, puis à arriver et revoir mon Maroc, ma famille, mes racines.
Expliquez-nous la place que Figuig occupe dans votre histoire familiale. Plus qu'Agadir, d'ailleurs, finalement.
Oui.
Quand on lit votre livre, on sent que votre père, c'est un homme de Figuig, et finalement, vous aussi. Et vous dites, on est de l'endroit où on est né, finalement.
Oui, mais moi, vous voyez, je suis née à Agadir, et j'ai de très bons souvenirs à Agadir, mais là, quand je retourne au Maroc, je vais uniquement à Figuig. D'abord, parce que c'est plus joli. Alors oui, il n'y a pas la mer. Mais c'est... Je ne sais pas, je veux transmettre Figuig à mes enfants. Agadir, finalement, c'est une grande ville. J'ai mes souvenirs là-bas, ils partiront jamais, je les ai, voilà. Mais Figuig, c'est traditionnel, c'est beau, on dirait un décor de film. Il y a des gens qui sont encore vachement connectés à la nature là-bas. On s'embarrasse de pas grand-chose, on vit utile.
Vous parlez de l'eau et de la gestion de l'eau, par exemple.
Il y a encore un lien social très important où les portes ne sont pas fermées, les portes d'entrée, on rentre comme ça, il y a juste un voile qui sépare, tout le monde est le bienvenu. Il y a un lien social très fort et j'adore ça, et mes enfants aussi. Il y a aussi cette... moi, je laisse mes enfants jouer dehors là-bas et puis ils reviennent deux heures après sur le dos d'un âne. Alors oui, ça fait
portes,
non, mais oui. ça fait un peu rire. On se dit oui, elle habite à Paris et puis elle aime bien aller deux semaines là-bas.
Tant que vous faites pas des pancakes pendant le confinement,
non,
tout va bien.
Non,
je vous rassure.
C'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas, ouais, je veux pas faire comme
carte postale.
Exactement, mais je viens de là-bas, donc j'aime ça aussi. Oui, maintenant j'habite à Paris et mes enfants ne jouent pas dehors sans surveillance, alors qu'à Figuig ils le font. Est-ce que j'irai habiter à Figuig toute ma vie? Non, c'est vrai, bien sûr. Je me rends bien compte, je comprends bien pourquoi des jeunes veulent quitter ces endroits et venir en France. Bien sûr, moi j'y vais deux semaines et c'est Hollywood pour moi. Alors que vivre là-bas, je sais que c'est très compliqué, encore plus pour un jeune qui a accès à Internet et tout. Je veux pas, mais j'y peux rien. C'est de là d'où je viens. J'ai cette chance de pouvoir et habiter à Paris et retourner chez moi à Figuig, de transmettre ça à mes enfants. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne vois pas tous les problèmes que c'est de vivre dans des villages comme ça un peu reculés pour une jeunesse qui a soif de beaucoup plus, quoi.
On découvre votre père et finalement, il vous a beaucoup raconté son enfance. Pas toujours la même version.
Mais ça n'a aucune importance que ce soit la même version.
Mais en fait, toutes les familles n'ont pas un père qui raconte leur enfance.
Non,
et j'imagine que ceux qui nous écoutent peut-être ne connaissent pas du tout l'enfance de leurs parents.
Mon père est un conteur. Vous savez, la tradition orale est très importante dans la culture arabe. Et donc, on transmet, et africaine d'ailleurs. Et donc, les vieux, parce qu'on estime qu'ils ont plus de choses à nous apprendre que les bébés, finalement, qu'on célèbre trop. On célèbre les bébés en Europe et puis on parque nos vieux. Alors qu'en Afrique ou au Maroc, on célèbre nos vieux. On s'en occupe très bien parce qu'ils ont une vie à nous raconter. voyez.
Même si c'est rattrapé aussi par le fait de moins s'occuper des vieux. Hein.
Non, mais bien sûr, oui. Mais d'une manière générale, moi, en tout cas, je vois à Figuig, nos vieux sont, un, respectés, et deux, les jeunes s'en occupent. Je vous dis pas que c'est pareil à Casablanca ou dans les grandes villes, bien sûr. Mais bon, je vous parle de ce que je connais. Et donc, mon père, on l'écoute, et il nous raconte, et peu importe que ce soit la même version que la veille, mais déjà, c'est un moment partagé, donc on est tous là à l'écouter. Deux, parce que c'est très intéressant, il a eu une enfance à la Tom Sawyer, ce que nous, on n'a pas connu, avec une liberté absolue.
À la Mark Twain, vous racontez ça, alors effectivement.
Oui, mais parce qu'il dormait vraiment à la Belle Étoile, dehors avec ses copains, quoi. Mmh. Et nous, on n'a pas connu ça. Donc évidemment, c'est mieux que des histoires, c'est du vécu.
Avec des histoires qui sont à mourir de rire, en plus.
Bah,
ils,
oui,
ils étaient facétieux, comme on dirait aujourd'hui, mais c'était...
Mais oui, il y avait beaucoup plus de liberté, il y avait moins de...
Mais vous l'imaginez, votre père, enfant ?
Bah, pas trop, parce que j'ai pas trop d'images et qu'on est quand même dans une période, dans une époque où l'image est au centre. Donc j'ai du mal à m'imaginer son visage que je... Non, mais en même temps, quand il me raconte qu'il traînait la nuit à réparer le monde avec ses copains et à dormir à la Belle Étoile, il m'a montré les niches où il dormait, il m'a montré tout ça. Donc oui, je sais que tout ça est vrai. Mais est-ce que ce serait possible aujourd'hui? Non, je crois pas. Mais en tout cas, c'est important de nous transmettre son enfance. Puis mon père, il a quelque chose d'intéressant, même s'il a évidemment souffert du fait qu'il est né dans un pays qui était colonisé par les Français. Enfin, c'était un protectorat français, mais enfin, c'est quand même pas loin. Mon père ne s'est pas muré dans le silence.
Et vous lui posez des questions. Ça se passait comment?
Exact.
Avec les Français quand tu étais petit à Figuig, et avec les Juifs. Vous lui posez ces questions?
Oui, bien sûr, mais enfin, et c'est là où j'aime sa manière très simple de dire, bah très bien. Enfin, c'est des problèmes nouveaux, tout ça, les problèmes avec les Juifs, ou c'est de la politique. M'emmerde pas avec ça. Moi, je te dis, on savait, c'était pas très intéressant de savoir qu'un tel était ci ou ça. On était copains avant tout, et tout le reste c'est de la politique. Je veux pas en parler, mais je vous dis, moi, mon père, il s'est pas muré dans le silence. C'est quelqu'un qui parlait énormément à ses enfants, à sa femme. Il montrait énormément ses sentiments. Il montrait son amour pour nous. Il était très tactile, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous. Et c'est vrai que c'était un petit peu rare parce qu'il a quand même souffert aussi dans son... Vous savez, quand vous réfléchissez, vous naissez dans un pays, même s'il me répond souvent, oui, non, les Français étaient gentils, c'était pas comme en Algérie, mais enfin, les Français étaient gentils, mais ils étaient là, ils avaient rien à faire là, quand même. Parce qu'en fait, vous naissez dans un pays où, à peine vous pointez le bout de votre nez à votre naissance, vous êtes déjà une déception. Vous ne ressemblez pas à la figure de l'autorité, vous ne mangez pas comme lui, vous n'avez pas les mêmes codes, la même culture. Vous êtes l'arabe et ils sont les Français en uniforme. Et donc, c'est très dur d'arriver sur Terre et d'être une déception pour celui qui commande. Voilà, il y a votre mère, pour elle, vous n'êtes pas une déception, évidemment, mais pour la figure de l'autorité, vous en êtes une, parce qu'en fait, on est là pour vous civiliser. On sait maintenant qu'il n'y a pas eu beaucoup de civilisation là-dedans.
Safi Hasdine nous raconte l'histoire de son père, qu'on retrouve dans un livre qui vient de sortir, c'est un roman. Mon père en doute encore, aux éditions Stock, et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est la première fois que je reçois Safia Hasdine, qui est notre invitée aujourd'hui pour parler de Mon père en doute encore chez Stock. Safia, votre prénom, on a dû souvent l'écorcher, non? Vous n'avez pas trop retrouvé Sophia souvent?
Oui, souvent Sophia et des fautes à mon nom de famille, mais enfin ça, vous savez, on s'y fasse pas très.
Hasdine, vous avez gardé le nom de famille de votre père pour votre nom de plume?
Bah, pour mon nom en général.
Ouais.
Ouais.
Vous n'avez pas pris le nom de votre mari?
Non, je ne vois pas pourquoi je le ferais.
C'est une question.
Non, mais je vous dis. Non, mais parce qu'en fait, quand on réfléchit, évidemment, on ne peut pas. Si on pensait tous comme moi, on aurait des noms, on en aurait 50 à la suite du prénom. Mais moi, Safia Hasdine, enfin, c'est mon nom depuis que je suis née jusqu'à l'âge où j'ai rencontré mon chéri. Et me l'enlever, c'était un petit peu enlever une partie de moi. Donc, mes enfants s'appellent Hasdine et le nom de mon mari. Et je ne peux pas imaginer m'appeler autrement que Safia Hasdine. C'est mon nom, quoi, c'est mon identité.
Voilà, vous le gardez. Voilà. Vous ne vouliez pas venir en France, racontez-vous, parce que vous ne vouliez pas ressembler... Enfin, parce que les Français ressemblaient à Jeanne Masse.
Mais non, ouais.
Ça m'a fait rire, je me suis dit...
Non, ma mère recevait le Paris Match à Agadir et Jeanne Masse avait fait la couve. Et puis, c'est vrai qu'elle avait... elle était rasée d'un côté, c'était rouge, noir, enfin voilà. Et ça m'avait fait peur. je vous avoue. Elle m'avait fait peur. Je ne savais pas trop qui c'était. Et ben, c'est une réflexion d'enfant. Maman, on ne peut pas aller habiter en France. En France, on ressemble à Jeanne Masse. Voilà. Mais il n'y avait pas de Jeanne Masse au Maroc. En tout cas, à l'époque.
Il n'y avait pas toutes les émissions de télé-réalité.
Ah non.
Il y a beaucoup d'anecdotes. Votre livre est drôle, hein, parce que d'abord, votre père est drôle, mais voilà, il est facétieux et il aime faire les 400 coups. Vous, quand vous mangez au restaurant aujourd'hui, c'est vrai ça, vous continuez toujours à prendre le plat le moins cher et à commencer à lire le menu par la droite.
En regardant les prix d'abord.
Ouais. C'est un truc d'enfant pauvre, en fait.
Mais
ça.
Mon père était pauvre. Nous, on faisait partie d'une petite classe moyenne. Voilà, on avait des petits plaisirs de temps en temps quand même. Mais je suis quand même le fruit d'une éducation. Et mon père l'est aussi. Et puis ma grand-mère, la maman de mon papa, quand on allait au Maroc et qu'on devait déjeuner ou qu'on était invité par la famille d'à côté... elle avait ses réflexes de pauvre, oui, en nous disant tu ne manges pas de la viande chez eux, on n'a pas. Enfin, vous voyez, il y a ces trucs un petit
peu. Ça se fait pas, c'est la bonne éducation.
La bonne éducation, ne mange pas de viande chez les autres, ouais. Ne leur montre pas que tu as besoin. Tu as de la viande chez toi. La viande étant le symbole de la richesse à l'époque. Et donc mon père, pareil, quand je raconte qu'ils avaient une cliente qui était
très riche, la Libanaise.
La princesse saoudienne, ouais. la belle-fille du roi Fahd à l'époque, qui était une cliente de ma mère, parce que ma mère était donc couturière avec mon papa. Et donc, il lui cousait des habits. Et donc, on était là-bas. Et puis, évidemment, ils ne sont jamais à l'heure, les princes et les princesses. Donc, on attendait dans le lobby de l'hôtel, puis après au restaurant. Et pareil, au restaurant, moi, j'avais envie de goûter des choses que je ne connaissais pas, comme du homard. Et là, mon père me dit, non, tu prends des pâtes à la sauce tomate. Même là, fallait prendre la chose la moins chère. C'est quelque chose qui vous poursuit d'éducation, alors que, évidemment, que la princesse se fout complètement qu'on mange du homard ou un plat de pâtes. Mais ça vous poursuit. On est comme ça, on déroge pas à la règle. Et donc, maintenant que j'ai la chance de pouvoir manger du homard de temps en temps, je me rends compte que quand je vais au restaurant, je fais attention au prix.
Vous continuez, ouais.
On continue parce que je suis le fruit de leur éducation et je fais attention au prix. Et puis, en plus, j'aime pas me faire avoir. Et puis,
ça parle à beaucoup de gens, ça. Vous savez qu'on on garde ces réflexes par rapport à l'argent.
Oui, et puis c'est très bien, finalement, parce que parfois, on se rend compte aussi que on gagne mieux sa vie que nos parents, pour certains en tout cas. Et est-ce que ça vaut le coup d'aller se faire ouvrir en deux dans un restaurant qui se fout de votre gueule avec des prix indécents? Non, c'est très bien. Moi, je pense à mon père quand je suis au restaurant et je prends quelque chose que j'aime et de pas trop cher.
Et alors, vous racontez que la première fois où il va au restaurant à Paris, mais là, on est dans les années 60, on lui demande s'il veut de l'eau plate ou pétillante.
Oui, c'est encore un peu nébuleux dans sa tête, plate, pétillante. Eux, ils s'encombraient pas de tout ça, voilà. Ils boivent de l'eau, point.
De l'eau debout.
Ouais, voilà. Ils trouvaient que c'était très drôle à l'époque, mais c'est toujours pareil, vous savez. Lui, il s'en souvient. Il se souvient de tout ce qui s'est passé ce soir-là, et donc il a dit non, je veux de l'eau pas plate, je veux de l'eau debout. Ça le fait rire, mais il y a tout un contexte. Moi, quand il me le raconte, ça me fait sourire. Mais
oui, parce qu'il y a tout un contexte. Il refuse d'aller à vivre dans un foyer pour travailleurs. Et c'est marrant parce que vous vous posez la question d'où lui vient finalement cette envie de ne pas faire comme les autres, du milieu où il part en fait.
Eh ben, mon père a fait un énorme travail de résilience. Vous savez, c'est un traumatisme. Encore une fois, je le maintiens. Je pense qu'on n'est pas obligé de vivre avec ça toute notre vie. Mais voilà, mon père est né dans un pays où il y avait, qui était colonisé, qui n'était pas, qu'on le veuille ou non, même s'il me répète, non, les Français étaient gentils, vous n'êtes quand même pas vraiment le bienvenu dans votre propre pays. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un boulet que vous traînez toute votre vie avec vous, parce que finalement, vous avez beaucoup de mal à voir grand, à rêver, à vous envisager, à vous sentir légitime dans le monde. Vous partez quand même avec ce petit handicap. Et mon père a fait ce travail de résilience tout seul sur ce traumatisme, en faisant que les questions culturelles, identitaires, il ne nous embarrasse pas, nous, avec. C'est-à-dire, il a fait son travail tout seul.
Lui,
il en a parlé, voilà. Il les a exprimés. Et puis nous, ses enfants, en tout cas, c'est en ça qu'il m'a fait gagner du temps. Et que j'ai aucun problème avec le temps qui passe, finalement, parce que finalement, j'ai toujours l'impression d'avoir gagné beaucoup de générations grâce à lui. C'est pas du tout au centre de ma vie. Je sais même pas ce que ça veut dire d'avoir un problème d'identité. C'est une chance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se dépatouillent avec ça, vous voyez.
Mais il y a une scène qui est très intéressante, parce qu'à un moment donné, vous expliquez que votre père a toujours été un coach dans votre vie. Il vous a toujours soutenu dans ce qu'il faisait. Quand on lit votre livre, on comprend que lui, il pouvait avoir un problème de confiance en lui. Il y a une scène qui l'illustre. C'est à un moment donné où il achète un tampon avec son nom. Et il tamponne, oui. il tamponne les livres qu'il relie avec son nom. Et vous lui on dit, mais pourquoi tu fais ça? Et ça vous énerve, et on comprend que ça vous énervait beaucoup, ça. Pourquoi ça vous énervait?
Non, ce qui m'énervait, en fait, c'est pas, enfin, oui, je comprenais pas qu'il ait besoin de mettre un,
il faisait,
ma sœur était à l'université, elle ramenait des livres qui étaient un peu pas facilement trouvables, évidemment. Et donc, mon père faisait beaucoup de photocopies et puis il reliait ses livres. Et moi, j'ai toujours vu mon père en train de lire et non pas en train de relier des livres. Et je lui expliquais que, finalement, qu'il y ait son nom sur un livre relié, écrit par quelqu'un d'autre, c'était pas très intéressant. Et que finalement, moi, je préférais le voir lire ou surtout, que j'avais pas besoin qu'il ressemble à d'autres intellectuels un peu imposteurs, voyez. Que moi, ce que j'aime, c'est son sel, c'est qu'il me raconte son enfance, qu'il me raconte son rapport à la nature. Ce que j'aime, c'est ses mains de quelqu'un qui a travaillé, ses mains en cuir. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il soit pas très raffiné, mais très civilisé. C'est tout ce qu'il a essayé de cacher à un moment donné pour ressembler à ceux qu'on écoute. Et finalement, je lui disais, ce tampon avec ton nom est totalement ridicule. T'as tellement pas besoin de ça. T'as tellement mieux à me raconter. Raconte-moi d'où tu viens, qui tu es, d'où vient cette peau de chèvre que tu, avec lequel tu relis ces livres. L'histoire autour de cette peau de chèvre donnée par sa mère. Enfin, je vais un petit peu trop loin dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est moi, c'est son sel que je veux. C'est ses mains en cuir. Pourquoi il a des mains comme ça? C'est sa manière de manger au restaurant, sa manière de s'exprimer, de s'envisager. Tout ça, ça m'intéresse. Mais qu'il tamponne des livres écrits par d'autres intellectuels ou grands penseurs. Moi, j'aime l'homme basique qu'il est. C'est là qu'il a quelque chose à me raconter. C'est lui, son lien avec la terre, avec ses jardins, avec l'eau, avec sa vision sur le monde. J'aime ses silences, j'aime tout ça.
C'est Léonard de Vinci qui a inventé le premier aéronef.
Je sais plus qui c'est, je sais plus si c'est... J'ai oublié son nom, mais c'est vrai qu'il avait aussi...
Abbas Ibn Firnas, le premier homme volant. Voilà. Il en est mort d'ailleurs.
Il en est mort. Je crois qu'il a été blessé, mais qu'il en est pas mort. Mais voilà, c'était aussi quelque chose...
En tout cas, c'était le premier homme volant.
Oui,
en tout cas.
Tout à fait. Et c'est ce que... Ma sœur donc est allée à l'université à Genève et elle étudiait... l'histoire et l'histoire des Arabes et la langue arabe, etc. Probablement au fond d'elle pour faire plaisir à mon père, mais bon. Et mon père avait en horreur le fait qu'on latinise les noms comme Averroès, Avicenne, etc. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est-à-dire que je pense que si on avait, nous en tout cas, les jeunes issus de pays arabes ou d'Afrique, entendu un peu plus parler de grands penseurs africains, etc., ou arabe, et ben ça avec des noms à consonance arabe, et ben je pense que ça aurait fait beaucoup plus pour la laïcité, pour la bonne entente entre les gens, parce que on se serait senti déjà rassuré, ça rassure notre ego de savoir qu'on a fait partie de l'histoire, de pouvoir s'identifier pas seulement à des joueurs de foot ou à des acteurs, mais aussi à de grands intellectuels arabes ou noirs. Et ça aurait fait du bien à toute la communauté. Et c'est vrai que quand on regarde nos livres d'histoire de l'époque, on a l'impression qu'on est complètement exclu de cette histoire, et je pense que ça fait des ravages, et c'est ce qui crée après probablement le communautarisme. Alors que si on nous avait dit oui, vous étiez là, vous avez permis aussi cela, Ibn Firnas, Ibn, je sais pas,
enfin, lui, il a inventé tellement de choses.
Oui, mais voilà, vous savez, dans votre journée d'écolier, vous entendez parler de Voltaire, de Rousseau, etc. C'est très bien, bien sûr. Mais si, en plus, quand vous êtes noir ou arabe, ou en tout cas d'origine, et que vous entendez parler de ces grands penseurs, eh ben ça vous rassure, vous faites partie de l'histoire, et donc vous êtes rassuré, vous allez mieux, et ça aurait fait du bien à tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on va rechercher. On était là, on a fait partie de l'histoire, nous sommes importants, et c'est très bien les joueurs de foot, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a aussi autre chose, et ça vous nous avez amputé de notre partie, de cette partie de l'histoire.
Mon père en doute encore, c'est donc votre nouveau roman, Safia Azzedine. Alors on va se quitter avec l'autre grande figure, enfin j'allais dire, de la bande originale de vos voyages en voiture pour aller à Figuig, c'est Shérar Imiti. Votre père connaît toute l'histoire de Shérar Imiti, en tout cas il la connaît bien, l'histoire de cette femme.
Et il aime cette femme, alors que mon père était très strict avec nous, donc pas de boum, pas de petits copains, pas d'appels téléphoniques pendant des heures, etc. Nous c'était la maison et à 18 ans tu feras ce que tu veux, donc moi j'ai pas connu tout ça. Et Shérar Imiti,
les booms notamment.
Voilà, les booms, voilà, j'ai jamais été dans des booms, etc.
Soirée pyjama, boom.
Ah non, tout ça n'existe pas. Ouais. Mais en plus, là où il est fort quand même, c'est que il a fait en sorte que ce soit même pas un sujet. C'est-à-dire que j'ai jamais réclamé d'aller en boom, ni moi, ni ma sœur. Et puis, la chose très importante qu'il a fait, c'est qu'il y avait la même éducation pour mes frères comme pour moi. C'était pas un frère qui avait le droit de sortir tous les soirs et des filles à la maison. C'était, nous étions tous logés à la même enseigne. Et ça, c'est la base de l'éducation, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de ressentiment envers lui, parce qu'en fait, moi, mon grand frère Mohamed ou Kadhi, on ne sortait pas. C'était comme ça. Donc, c'était même pas un sujet.
Comme les crises d'adolescence étaient interdites.
Mais on n'envisageait même pas une crise d'adolescence. On était là pour bien se comporter, pour respecter nos parents, les aimer, vivre. Et puis après, tu verras, une fois que tu seras construit, tu vivras ta vie à 18 ans, parce qu'il faut donner un âge légal à tout ça. Mais avant ça, c'était même pas un sujet. Il était même pas pensable qu'on fasse une crise d'adolescence. Et donc, on l'a pas faite, tout simplement.
Oui, mais enfin, vous imaginiez comment ça pouvait être une boum.
Ouais, et donc, c'est ça qui m'a permis peut-être d'être romancière. C'est-à-dire que comme j'avais pas le droit d'aller en boum, il fallait bien que je m'imagine comment
ça pouvait se passer avant.
Exactement, comment c'était les boums. Et c'est ce qui m'a peut-être permis d'écrire aujourd'hui des livres.
Bon, chère Harry Mitty, une grande dame du rail avec une histoire passionnante.
Vous savez pourquoi elle s'appelle chère Harry Mitty?
C'était parce qu'il fallait remettre.
Voilà, elle était... Je sais pas si elle est alcoolique, mais en tout cas, elle fréquentait les bars, elle buvait de l'alcool.
Mais moi, je l'ai vue. Et elle disait. Je l'ai vue à Barbès.
Bah oui, j'imagine. Chanter. Et elle disait, Limitissa, remettez-moi ça, Limitissa. Et elle s'appelle Cheikh Harry Mitty. Et elle parle de toutes les choses interdites. Et c'est là où mon père a été très important pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interdit. Il y avait, pour l'instant, c'est non. Mais un jour, ce
C'était
sera oui.
Ce que vous appelez une temporisation.
Exactement.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. عيك احلى الروجينا مشي تعبرا في زوار اركبتنا او عينك احلى في الماشينا زوج عباسية تلاقينا في طريق مصغاليم يمشيت وانا وليت يا هي بدموع الذرية نام العقيلي خليت بيده شي والله نار عيشة القلب رشا مسكينة ديروني في الحبس مبلع زادوا العسام الفوق ما بي شي والحبس مبلع بي شفيت اللي عديانا يا ذا 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 يا ذا 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 يا
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.